Nous sommes réunis aujourd'hui, il va nous manquer deux auteurs, mais on va faire sans, sur une conférence sur histoire et fantaisie, et sous-titrer les visages du passé. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu la dimension historique dans la fantaisie, et parfois uchronique. Et nous avons, pour parler de ce thème, trois auteurs avec nous. Nous avons Greg Keyes, avec sa traductrice Anaïg. Nous avons Elisabeth von Arberg et Christophe Lambert. Alors, je vais juste vous les repréciser quelques titres rapidement. Greg Keyes, on a pu le lire, donc Les élus du Changelin, dont vous venez d'avoir un extrait. Il a écrit également L'âge de la déraison, qui se passe plutôt au XVIIIe siècle, et puis Les royaumes d'épines et d'os. Nous devions avoir Fabienne Ferrer, mais qui n'est pas là. Nous avons également donc Christophe Lambert, qui a pu écrire La Reine de la Vengeance en Bretagne, 60 ans après JC, Vegas Mytho et puis le Commando des Immortels. Et puis nous avons Elisabeth von Arberg qui a écrit La Maison des Mères. Et ah oui, Christina Rodriguez n'est pas là non plus. Tant pis. Et donc il a écrit La Maison des Mères qui se déroule plutôt à partir du XVIe siècle. On va leur demander déjà peut-être quel est leur rapport à l'histoire et est-ce qu'ils ont eu besoin de beaucoup de documentation pour écrire certains de leurs livres. On va passer la parole d'abord à Elisabeth, puisque elle a commencé à lire, à elle. Alors, on est plutôt dans une uchronie, plutôt en France, fin 16e.
C'est une fantaisie uchronique, et on est dans la France, dans le sud de la France, dans l'ouest, sud-ouest de la France, entre le 16e et le tout début du 19e siècle. Ça finit en 1801-1802, et ça s'appelle « Reine de mémoire ». Vous voulez savoir notre rapport à l'histoire ?
Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu besoin beaucoup de documentation, de recherches ?
Oh mon Dieu, oui. Oui. À l'origine, ça devait juste être de la fantaisie, puis c'est devenu de la fantaisie historique, puis tout d'un coup, comme j'avais cette idée que j'avais envie d'étudier les religions et de voir si on changeait quelque chose dans les religions, qu'est-ce que ça changeait dans les sociétés. Je me suis dit, bon, alors si on change tout depuis le début, à l'an zéro, Jésus a une sœur jumelle, et ok, il tire au dé, c'est lui qui mord sur la croix, et elle fonde l'église géminite, qui est une église, le culte des Gémeaux, qui étaient les représentants de la divinité. Et la magie fait partie de cette religion. Donc toute fantaisie est uchronique, en fait. Parce que c'est un univers parallèle ou divergent, du moins, où la magie fonctionne pour de vrai. Et donc, il a fallu que je me lance dans des recherches. Parce que quand on fait de l'uchronie, il s'agit de connaître l'époque qu'on va modifier à partir de l'élément de divergence. Qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo? Ben, il faut connaître l'épopée napoléonienne et toute l'histoire de l'Europe autour et d'où ça vient et comment, qu'est-ce qui s'est passé après pour pouvoir dériver à partir de là. Alors non seulement il faut rechercher la véritable histoire, mais il faut inventer l'histoire parallèle. Et en plus, ça n'est pas comme dans la science-fiction où on est le dieu de son univers et où on est limité finalement que parce que ce que la science nous dit être possible, ce qui est déjà assez vaste, mais on a affaire à des éléments assez subjectifs. Parce que moi, j'ai envie que cette histoire dérive par là, mais un historien va peut-être me dire « Ah ben non, c'est pas possible. » Mais moi, je m'en fous si c'est pas possible. Je vais m'arranger pour que mon lecteur me croie. Et en plus de ça, les lecteurs ne connaissent pas nécessairement l'histoire. Donc il ne faut pas que toute cette recherche vienne dans les pattes de l'histoire et qu'on ait tout le temps envie de mettre presque des notes en bas de page. Enfin, c'est la mort, là. Donc, d'un côté, c'est fascinant parce qu'on découvre tout plein de trucs qu'on avait oubliés ou qu'on ne savait pas et qui, curieusement, vous relance constamment dans l'histoire parce qu'il y a des détails qui s'ajoutent, qui viennent allumer votre imaginaire. Mais en même temps, à un moment donné, il faut l'écrire, la maudite fiction, là. Et donc, il faut savoir s'arrêter. Donc, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses.
Pourquoi pas avoir inventé complètement un univers à part ?
Parce que je l'avais déjà fait. Non, parce que ça s'est présenté. Quand une histoire arrive, et celle-là, comme beaucoup d'autres, m'a été donnée par un rêve, on ne regarde pas, à cheval donné, dit le proverbe, on ne regarde pas les dents. Alors à histoire donnée, on ne dit pas oui, mais on la prend.
On va poser la même question à Greg Keyes, qui effectivement, alors je pense notamment à l'âge de la déraison, mais aussi aux élus du Changelin. Donc les élus du Changelin vont plus se passer en Amérique du Sud. L'âge de la déraison se passe plutôt en Europe au XVIIIe siècle. Est-ce que vous avez eu besoin beaucoup de documentation à chaque fois, et pourquoi avoir choisi de vous appuyer sur des événements historiques?
In the case of the Waterborne, it's not really anchored in anything real historically. So there I did read more for inspirational purposes than factual.
En fait, dans le cas des élus du Changelin, il n'y a pas vraiment de contexte historique. Donc, j'ai pas vraiment eu besoin de faire des recherches pour celui-là. C'était plutôt du vécu.
In the case of the Age of Unreason, I had a vague idea for an alternate history, a colony, set now in our time, where things changed drastically in the 18th century.
En fait, pour l'âge de la déraison.
I said in terms of the Age of Unreason, I had a vague idea for a story set now, an alternate history set now, in which the things went very differently in the 18th century.
Ouais, en fait, en ce qui concerne l'âge de la déraison, au début, j'avais l'idée d'une histoire qui se passerait maintenant, mais après des changements qui auraient eu lieu pendant le 18e siècle.
I was having a conversation with my editor, and this was right after my first novel.
J'ai eu une conversation avec mon éditeur, en fait, juste après ce premier livre, Les Élus du Changelin.
And she wondered if I had any ideas, and I told her the idea that I just said, but in very vague terms.
Et donc, elle m'a demandé si j'avais de nouvelles idées. Je lui ai donné cette idée dont je viens de vous parler, mais en des termes plutôt vagues. C'était plutôt un brouillon.
And I didn't realize that I was trying to sell a novel at that point. I thought we were just having a conversation.
Et en fait, je réalisais pas que on était en train d'essayer de parler d'un livre que je pourrais éventuellement vendre. Je pensais qu'on était juste en train d'avoir une conversation.
A week later, she called me back and said, "Can you make that 3 books and can you set it at the time that the change actually happened?"
Et en fait, quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé et elle m'a demandé si je pouvais en faire 3 livres, et en fait 3 livres qui parleraient du moment où les choses, où l'histoire a changé.
At that point in my career, if she had asked me to put on a barbecue sauce and get on a barbecue grill, I would have said yes.
En fait, à ce moment-là de ma carrière, si elle m'avait demandé de m'enduire de sauce barbecue et de me foutre sur un grill, j'aurais dit oui.
So I said, of course.
Donc j'ai dit bien sûr.
And then I realized that while I knew a lot about the 18th century in America,
and you realized that what?
I knew a lot about the 18th century in America.
I'm sorry, I don't get it.
I said, And I realized that I knew a lot about the 18th century.
Sorry. Et en fait, j'ai réalisé que j'en connaissais un rayon à propos du 18e siècle en Amérique.
But very little about the 18th century in Europe.
Mais pas grand-chose sur le 18e siècle en Europe.
Which is where this was supposed to happen. And so, yes, immediately I dived into research.
Donc, et évidemment, c'était censé se passer en Europe au 18e siècle. Donc, oui, évidemment, j'ai aussitôt plongé dans les recherches.
So a lot of the research, actually, I did as I went along. For instance, I reach a point and I wonder, what are they wearing in Versailles in 1715, so forth, like that.
So, could you repeat, please?
I did a lot of the research as I was going along. So, for instance, I get to a scene and I need to know what they're wearing in Versailles in 1715.
Oh, yeah. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches à propos de Versailles, comment est-ce qu'on vivait à Versailles.
And this is before the Internet, so...
Ah, et c'était avant Internet, en plus.
So, off to the library.
Donc voilà, direction la bibliothèque.
Et alors je reviens sur les élus changelins qui effectivement n'ont pas de base historique, mais en même temps ça ressemble à des civilisations sud-américaines et américaines. Est-ce que vous avez fait des recherches particulièrement pour pouvoir construire la civilisation que vous mettez en scène?
The Waterborne came more directly out of my experiences as an anthropologist and my research as an anthropologist because this is what my degrees are in.
Mais en fait, les élus du Changelin, ça vient plutôt de mon expérience et de mes études en tant qu'anthropologiste, parce que c'est là que j'ai eu mon diplôme.
And also from having lived on the Navajo reservation.
Et aussi d'avoir vécu dans une réserve indienne des Indiens Navajo.
And in fact, the languages of both the city and the Mang people are languages of my invention, but they're based on the Navajo language.
Et donc, en fait, le langage des gens qui vivent dans la ville, le langage des Mang aussi, les cavaliers Mang, viennent tous les deux, enfin, ce sont des langages de mon invention, mais ils viennent plus ou moins aussi du langage Navajo.
So I draw on historical sources, but the particular mélange is mine.
Donc, en fait, je me repose un peu sur des sources historiques, mais le mélange en tant que tel est tout à fait de moi.
On va poser un peu les mêmes questions à Christophe Lambert. Juste, je précise que Christina Rodriguez nous a rejoint. Voilà. Merci à elle. Alors, Christophe, donc plusieurs romans avec souvent, effectivement, des jeux avec l'histoire. Je pense, par exemple, au Commando des Immortels, où on est en pleine Seconde Guerre mondiale, ou à la Reine de Vengeance, où on est 60 ans après Jésus-Christ. Même chose, à chaque fois, ça demande beaucoup de recherche. Et pourquoi jouer avec l'histoire pour faire ces romans?
Moi, l'histoire a toujours été ma matière préférée à l'école, bien plus que le français, même, je dirais. J'ai grandi aussi avec une série télé qui s'appelait Il était une fois l'homme, qui était diffusée à 19h55 sur la 3 tous les soirs. Et j'étais vraiment accro. Et ça m'a donné des bonnes bases de vulgarisation en histoire. Après, j'ai rencontré le réalisateur Albert Barillet, avec qui j'ai travaillé. Mais ça m'avait vraiment inoculé le virus de l'histoire. J'aimais bien cette idée des personnages qui voyageaient à travers les époques, et d'ailleurs, dans que ce soit le Commando des Immortels ou Vegas Mytho, on a aussi ces personnages qui gardent la même allure, mais qui changent de costume, un peu comme dans le générique d'Il était une fois l'homme. C'était déjà le premier morphing dans les années 70. Et moi, c'est ma grande récréation, la documentation. J'ai ma pile de doc, je prends des notes. J'écoute de la musique de film en même temps, donc c'est une sorte de rêverie sous contrôle. Et ça, c'est la partie la plus agréable. Après, quand il faut écrire véritablement l'histoire, c'est un peu plus laborieux en ce qui me concerne. Mais j'adore me documenter, j'adore m'immerger dans une époque. Pour La Reine de Vengeance, il n'y a pas beaucoup de sources. Il y a deux historiens romains qui ont fait des comptes rendus. Donc un qui s'appelle Dion Cassius, si je ne m'abuse, je ne me souviens plus du deuxième. Oui. Et donc là, j'avais ce qu'on appelle les scénaristes américains appellent les plot points, c'est-à-dire j'avais les points forts de l'histoire. La reine Boadicée, son mari meurt, donc elle, puisque c'est un matriarcat, elle devient reine de la tribu des Icènes. Les émissaires de Néron veulent la spolier d'une partie de ses terres. Elle se rebelle, elle est fouettée et ses deux filles sont violées, donc ça c'est historique. Ça la met très en colère. On la comprend. Elle soulève deux ou trois tribus avec elle. Et là, c'est un peu Braveheart, mais au féminin, hein, puisqu'elle elle va raser une colonie anglaise Camulodunum et le Londinium, enfin le Londres de l'époque, hein, qu'elle va brûler. Et on peut encore voir, si on fait des recherches géologiques, la couche... la couche carbonisée. Ça, j'avais lu ça, hein, dans... C'était dans From Hell, d'Alan Moore, dans sa très abondante postface, il en parlait. Ça m'avait mis la puce à l'oreille, cette révolte de Boadicée. Donc, quand Xavier Mauméjean m'a proposé de rejoindre la collection Royaume Perdu, je lui ai proposé plusieurs sujets, dont Boadicée. Donc j'avais les grandes articulations de l'histoire et beaucoup de vide à remplir, ce qui m'a laissé toute latitude pour injecter de la magie et de la fantaisie là-dedans, avec des dieux. On peut considérer La Reine de Vengeance un peu comme un préquel ou une introduction à Las Vegas Mytho, puisque déjà les dieux olympiens, là qui sont récupérés en l'occurrence par le folklore romain, interviennent dans l'action. Et pour Vegas Mytho, eh bien, je me suis plongé avec délice dans le Vegas des années 50, le Rat Pack, Dean Martin, Sinatra, Sammy Davis... J'ai lu une biographie d'Howard Hughes pour écrire un seul chapitre sur Howard Hughes. J'ai lu toute une biographie, mais j'ai trouvé là-dedans des détails incroyables, quoi, que je n'aurais pas osé inventer tout seul. Bah, c'est l'avantage de la documentation, quoi. Trouver des choses saugrenues, mais qui sonnent vraies en même temps, qu'on ne pourrait pas créer de nous-mêmes, quoi. Donc voilà, j'essaye d'écouter de la musique ad hoc, de voir des films ad hoc. Enfin je m'immerge comme un sous-marin dans la période. Et après, je sors le périscope et je commence à écrire.
Et alors, comment est-ce que tu choisis les périodes historiques sur lesquelles tu vas écrire? Parce que
moi, toutes les périodes m'intéressent. Moi, j'adore le Moyen-Âge, j'adore l'Antiquité, j'adore la Révolution industrielle. La Seconde Guerre mondiale, je m'y suis attaqué deux fois. Enfin, non, moi je suis un fou d'histoire, quoi. Donc, je choisis. Ça, tout dépend de la situation de départ. Il n'y a pas de règle.
D'accord. On va passer la parole à Christina Rodriguez qui a écrit Meurtre sur le Palatin, si je ne dis pas de bêtises. On est là pour le coup en pleine Rome impériale sous le règne de Tibère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi cette période ? Est-ce que ça vous a demandé comme travail autour de la fiction ?
Autour de la fiction ? Pourquoi cette période ? Moi, ça fait, c'est le 15e livre, hein, Meurtre sur le Palatin, donc Rome, ça fait 10 ans que je le traîne derrière moi, si je puis dire. Comme travail pour la fiction, ça n'a rien demandé de pas de travail particulier.
Beaucoup parce de documentation
que, l'avantage quand on travaille sur un sujet comme ça depuis très longtemps, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin d'aller chercher les petits détails. Ce qui est important, mais pour le peu que j'ai entendu, je crois que mes confrères l'ont très bien dit, on a besoin d'aller chercher la vérité historique pour ne pas écrire de bêtises. Pas tout simplement parce qu'il faut que ça colle, il faut que ce soit un livre historique. Il n'y a rien de plus embêtant quand vous voulez lire un livre ou un bon roman de se farcir, pardonnez-moi l'expression, mais des pages et des pages de descriptions historiques, c'est horrible. Ce qu'il faut, c'est étudier suffisamment la période et la connaître suffisamment pour ne pas justement donner l'impression au lecteur qu'il est en train de lire un livre d'histoire. Il faut qu'il arrive au milieu de l'action, qu'il se sente bien au milieu des personnages, qu'il ait l'impression d'avoir vécu là pendant des années et surtout qu'il ne se sente pas dépaysé parce que sinon il va décrocher. Donc en fait, tout le travail réellement, c'est là. Après, c'est chacun l'imaginaire, c'est chacun ses rêves, ses envies, ses fantasmes. Voilà.
Et alors pourquoi justement Rome, plus particulièrement depuis 15 romans ?
Rome, moi je suis tombée dessus, excusez-moi, j'ai une faiblesse au poignet, je suis obligée de tenir le micro à deux. Moi j'ai choisi Rome parce que je suis tombée dedans quand j'avais 13 ans. Je suis tombée amoureuse de Caligula quand j'étais petite. Et donc, en faisant des recherches, tout d'abord sur lui, puis sur sa famille, puis sur la région, sur l'époque, tout bêtement, on est tombé là-dessus. Et surtout que je suis d'origine espagnole. Moi, je viens du nord de l'Espagne et de l'endroit où était basée la 7e Gemina, c'est-à-dire c'est la légion romaine qui était basée dans la péninsule ibérique. Et donc, je nage dedans depuis que je suis gamine, en fait.
Peut-être une petite question ouverte, hein, pour le coup. Est-ce que tout l'intérêt de l'histoire aussi, c'est ce que tu disais, de trouver parfois des détails qui accrochent ou des zones d'ombre où une fiction peut s'épanouir ? Qui veut répondre entre Greg Case ou... Oui.
Moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point les détails qu'on peut trouver dans la réalité, soi-disant, peuvent correspondre quelquefois à nos désirs. Ça me fascine, ça m'est arrivé dans la science-fiction, mais ça m'est arrivé aussi dans la fantasy, c'est pour ça que je dis pas. Au niveau de la construction de monde, il n'y a pas vraiment de différence au niveau d'expérience. Et j'étais en train de rechercher pour l'itinéraire d'un personnage qui se rend depuis la Hongrie, les portes de fer, il retourne chez lui en Bretagne, le prochain ce sera au Moyen-Âge, enfin un Moyen-Âge. Et je regardais chacune des villes où il s'arrête pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, les photos sur Google, merci l'Internet, et etc. Et on trouve j'ai trouvé un détail d'un pont qui avait été construit par les Romains et qu'ils ont démoli d'ailleurs par la suite, presque tout de suite. Mais moi, le pont, il va rester. Le pont va rester, il est splendide. C'était un ouvrage absolument extraordinaire pour l'époque. Il fait, je crois, 1,5 km, ou enfin... Et il y a une représentation graphique de la chose. Et j'avais besoin d'un pont. Et voilà, merci. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sainte chronicité, parce que j'ai toujours ces expériences-là. Je trouve un détail qui va bien avec justement ce que je voulais. C'est comme si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le microcosme et le macrocosme. C'est extraordinaire comme expérience. Et l'histoire nous permet, comme la science, ce genre d'épiphanie, tout d'un coup.
Peut-être la même question pour Greg Keys. Est-ce que vous avez trouvé des détails comme ça particulièrement intéressants ou...
Yes, I'm sure that I did, but I can't think of anything right now.
Oui, ça m'est sûrement arrivé, mais j'arrive pas à me souvenir d'un en particulier pour l'instant.
The best thing I can think of is that I also was researching London for the Age of Unreason.
Le meilleur exemple que je pourrais avoir, c'est quand je faisais des recherches aussi pour Londres, en fait, comme vous, pour l'âge de la déraison.
And there was a coffee house called the Grecian Coffee House where the great minds of the day met.
Et il y avait un café à Londres. Où tous les grands esprits en fait du siècle se réunissaient.
Isaac Newton, Voltaire, Jonathan Swift, and so forth.
Newton, Voltaire, Jonathan Swift, etc.
And the next time I was in London, I had studied the map so much, the 18th century map so much that I had it in my head.
Et quand je suis allée ensuite à Londres, j'avais tellement étudié la carte du 18e siècle, du Londres du 18e siècle, que je l'avais dans la tête quand je suis allée à Londres.
So I was walking on the Strand and I realized, wait a minute, the Grecian coffee house should be this way.
Et j'étais en train de marcher dans la rue, et puis tout d'un coup, je me suis dit, j'avais la carte dans la tête, tout d'un coup, je me suis dit, attends deux secondes, le café grec devrait être juste à côté.
So I go down the alley, and there is a bar, and there's a plaque by the bar that says, this used to be the Grecian coffee house.
Et donc, j'ai descendu l'allée, et puis je suis arrivée à un bar, et il y avait une plaque à côté du bar qui disait, ceci était autrefois le café grec.
So I go in the bar and order a beer, and I ask the bartender, so this used to be the Grecian coffee house.
Et donc, je suis entrée, j'ai pris une bière, j'ai demandé au barman, ça, autrefois, c'était bien le café grec.
And she says, je ne suis pas, je suis australienne.
et elle a dit, donc, je ne sais pas, je suis australienne.
And I said, well, does any... She says, so maybe this other guy knows.
This other guy, just in the bar.
In the bar, yeah.
Donc, elle m'a dit, tiens, peut-être que ce mec-là, il peut savoir.
And I said, so this is used to be the Grecian coffee house. And he says, no, it's always been this place.
Et donc, j'ai demandé à l'autre type, donc, c'était le café grec ici autrefois. Et le mec m'a répondu, non, ça a toujours été ce bar-là.
And I said, there's a plaque outside that says this used to be the Grecian coffee house.
Et je dis, mais il y a une plaque dehors qui dit qu'autrefois, ici, il y avait le café grec.
And they say, oh, that's why the tourists always stop.
Et alors le mec a dit, mais c'est pour ça que les touristes n'arrêtent pas de s'arrêter chez nous.
And I had similar experiences in other cities that I visited that I had written about.
Et donc j'ai eu des expériences à peu près similaires dans les autres villes que j'ai visitées et à propos desquelles j'avais écrit.
And so that was I'm not sure that really gets to your question, but this was one of the joys for me of writing.
Et bon, je suis pas sûre que ce soit exactement le sujet de votre question, mais c'était une des joies de l'écriture d'écrire à propos de l'histoire que j'avais.
Dans l'âge de la déraison, vous mettez en scène des personnages historiques. Alors comment est-ce qu'on met en scène un personnage historique, et est-ce que après et maintenant vous êtes capable de vraiment faire la différence entre le Benjamin Franklin que vous avez imaginé et le vrai Benjamin Franklin?
Well, you know, to be honest, I think any character that any writer writes is really actually part of themselves.
Part of the...
Ouais.
En fait, pour dire la vérité, n'importe quel personnage que vous écrivez est en fait fait partie de l'écrivain lui-même.
But that being said, I think writers have an ability to become slightly schizophrenic.
Évidemment, enfin, j'ai l'impression que les écrivains ont une certaine capacité à devenir un petit peu schizophrénique.
So when I'm working on a character like Benjamin Franklin, I try to build a model of them in my head.
Et donc quand je travaille sur un personnage comme Benjamin Franklin, j'essaie de construire un modèle, de me faire une idée d'eux dans ma tête.
In this case, I did so by reading the things he had written when he was young, because my Benjamin Franklin's young.
Et donc alors à ce moment-là, j'ai commencé à lire les écrits de Benjamin Franklin, ceux qu'il avait écrits quand il était jeune, parce que mon Benjamin Franklin est jeune.
By reading, about the society he grew up in, and by reading fiction written in.
Et en lisant en faisant des recherches sur le genre de société dans laquelle il a grandi, et parce qu'en lisant aussi ce qui était écrit pendant qu'il était jeune.
And then I turn the little model on and I sit down at the typewriter and it just does what it wants to.
Et donc j'avais un petit personnage comme ça, un petit modèle dans ma tête, et puis je me suis assis pour écrire et puis je lui ai fait faire ce que je voulais.
Je vais poser la même question à Christophe Lambert qui a mis notamment en scène Tolkien dans Le Commando des Immortels. Tolkien en pleine Seconde Guerre mondiale.
Voilà, alors Tolkien, je me suis servi de la biographie d'Humphrey Carpenter et surtout de la correspondance, gros pavé. Et à partir de là, j'ai essayé d'imaginer comment réagirait Tolkien s'il se retrouvait en Birmanie avec des elfes contre les Japonais. Je sais, ça paraît improbable, résumé comme ça. Et c'est vrai que là-dedans, des problématiques personnelles aussi s'injectent, puisque le héros est quasiment dépressif pendant tout le bouquin, se laisse trimballer par le reste du commando. Et au moment où je l'ai écrit, c'était moi-même une période où j'étais pas très bien, on va dire, donc... C'était assez raccord avec mon état d'esprit, tout en essayant de bâtir un Tolkien cohérent par rapport aux sources que j'avais lues. Donc, et pour répondre à ta question précédente, la pêche au détail, oui, ça fait partie des petits plaisirs de l'écriture. On est toujours agréablement surpris parce qu'on trouve des détails qui apportent de l'eau à votre moulin dramatiquement parlant. Et il y a aussi un truc qui me frappe à chaque fois, c'est que quand je commence à m'intéresser à un sujet ou à une période, j'ai l'impression qu'autour de moi fleurissent les articles, les émissions télé, les émissions radio. Il va y avoir tout d'un coup une soirée théma sur Dean Martin sur Arte, une émission sur France Culture sur Las Vegas, un article dans Historia Magazine ou que sais-je encore. En fait, il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que l'écrivain a mis son cerveau en mode radar et tout d'un coup, il perçoit plein de correspondances comme ça.
Je vois que ça fait sourire Elisabeth. Pareil pour vous, en termes de personnages historiques, comment est-ce que vous vous en approchez? Comment est-ce que vous les travaillez?
Moi, je les approche, oui. je pense que mon frère le disait très très bien, quand on est écrivain, on est schizophrène, mais pas qu'un peu. C'est-à-dire, quand vous écrivez un chapitre et quand vous finissez de l'écrire, mais vous êtes crevé, parce que vous avez tellement passé d'un personnage à l'autre que vous n'en pouvez plus. C'est vraiment une fatigue physique. S'approprier les personnages, c'est déjà ce que je disais hier, moi, j'y arrive pas. Parce que ça vient peut-être de mon éducation, peut-être un peu classique ou un peu, je sais pas. Pour moi, les personnages historiques, ça reste des morts et je peux pas en faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que je vais essayer de me mettre dans leur peau, je vais essayer de, bien sûr, de les faire aimer au public autant que moi je les aime. Je vais essayer d'imaginer des choses, je vais en inventer d'autres aussi, bien sûr, on suit pas l'histoire trait pour trait, mais je vais quand même pas me laisser aller complètement. Donc je peux pas dire que je me les approprie et je peux pas dire que je joue avec, c'est pas vrai.
Vous avez besoin qu'ils semblent crédibles par rapport à ce qu'ils étaient?
Oui, il faut qu'ils soient crédibles par rapport à ce qu'ils étaient. Oui, pour moi, oui, en tous les cas.
Oui.
En écoutant mes collègues, je me rends compte que je me suis moins donné la permission d'utiliser des personnages historiques que des lieux historiques. Les personnages historiques apparaissent en deuxième ou troisième arrière-plan comme un peu un clin d'œil. Un de mes personnages a une correspondance avec Voltaire en particulier et Diderot. Je me suis posé la question pendant une journée entière, ça m'a fait perdre une journée. Est-ce que j'allais mettre Napoléon? Parce qu'enfin, c'est la période 1789-1802. Et alors, enfin, est-ce que je vais mettre Bonaparte? Alors, je voulais qu'il soit cultivateur de roses ou alors un petit capitaine d'artillerie frustré quelque part à Toulon. Mais puis finalement, je me suis dit, mais non, c'est juste pour te faire plaisir à toi. C'est pas le bien de l'histoire qui veut ça, mais j'ai quand même perdu. Et parce que c'était vraiment un gros personnage. Finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'apportait, c'était justement de ne pas avoir un gros nom là qui distrairait complètement le... Par contre, les lieux historiques, je me suis beaucoup amusée avec les lieux historiques. Comme je n'étais pas sur place et qu'on ne peut pas tout savoir à travers Google, j'avais des antennes dans les trois villes principales où se passe mon histoire, et je les ai mis à, puisque c'était des personnes, je les ai mises eux, des antennes à contribution. Ils m'ont envoyé des bouquins, et il y a des moments où je me trimballais dans Lyon, dans Toulouse et dans je ne sais plus quoi, Paris peut-être, non, enfin Lyon et Toulouse en tout cas, j'avais les plans, les noms des rues, j'en inventais d'autres, enfin, j'ai réinventé Orléans avec Jeanne d'Arc, il y a une statue de Jeanne d'Arc quelque part. Donc c'est plutôt les lieux, parce que je me sentais peut-être plus à l'aise avec les lieux qu'avec les personnages. Les personnages, c'est pas évident. Il y a une grosse controverse en ce moment sur les paroles qu'on a prêtées à Roosevelt. En plus, lui, il est prêt. Où je me dirais, ok, les Latins, ils sont quand même morts depuis longtemps. On peut peut-être se permettre. Non, pas vraiment.
Et alors, je reviens, mais la Révolution française n'a pas eu lieu. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire la Révolution française?
Oh bah parce que pour... D'abord, j'ai choisi 1789, je pense précisément 1789, parce que c'est une date que pratiquement tout le monde connaît. Je rappelle que je suis française d'origine, mais je vis au Québec depuis 36 ans, et la connaissance de l'histoire n'est pas la même, la perception qu'on en a n'est pas la même, l'histoire de France n'est pas nécessairement l'histoire du Québec, même si elle l'est jusqu'en 1700, jusqu'à ce que les Français abandonnent lâchement les Québécois aux Anglais. Donc 1780, c'était une date dont j'étais sûre que tout le monde la repérerait et dirait, mais on devrait être en pleine révolution. Si le problème, c'est quand on est dans l'Uchronie, c'est-à-dire une histoire parallèle, une histoire divergente, il faut que le lecteur puisse se repérer très vite en disant, ok, c'est le sud de la France, mais c'est le XVIIe siècle, ou le XVIIIe siècle, ou le XVIe siècle, mais c'est pas le nôtre. Donc il faut des éléments précis de divergence qui parlent à un nombre suffisant de lecteurs.
Petite question à Greg Keys. Est-ce que l'âge de la déraison aurait pu se faire à un autre siècle.
Well, that's a good question. I think I said it in that century because, of course, we call it the age of reason.
Ouais, en fait, c'est une bonne question, mais je pense que je l'ai mis dans ce siècle-là parce que, évidemment, l'âge de la déraison fait écho à l'âge des lumières, l'âge des raisons.
And in fact, the book's the very beginning of the book is in the 17th century.
Et en fait, le tout début du livre, c'est au 17e siècle. Ça se passe au 17e siècle.
When Isaac Newton is doing not mathematics or, you know, trigonometry, but he's doing alchemy.
Ou quand Newton n'est pas en train de s'occuper de trigonométrie, mais d'alchimie plutôt.
And this actually, this is true. I mean, this is, he did that.
Oui, en fait, non, mais c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il l'a vraiment fait.
And he did a lot of things that we now consider to be quite unreasonable. He wrote a book on the prophecies of Daniel, for instance.
Of Daniel. Mm-hmm. Et il a fait des choses que maintenant on considérait comme pas du tout scientifique ou pas du tout raisonnable. Il a écrit un livre sur les prophéties de Daniel, par exemple.
But what we remember him for are the things that he worked on that we still consider to be valid.
Mais en fait, bon, on se souvient de lui pour les choses qu'il a faites que nous considérons toujours comme étant valides.
And in this moment, I think it was 1670 something.
1670 something. Et à ce moment-là, je crois que c'était en 1670 quelque chose.
In his journal, he's doing this alchemy and he writes Eureka, essentially, I found it, this is it. He's looking for the philosopher's mercury.
Oh, et dans son journal, à un moment, donc dans ces années-là à peu près, il écrit Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Et en fait, il était en train de chercher la pierre philosophale.
And at some later date, he goes back to his journal and writes essentially never mind.
Et quelques jours plus tard, il revient à son journal et il écrit un truc genre ouais, laisse tomber.
So he's another author is who wrote a biography and have called him the last sorcerer.
Et en fait, un autre auteur a fait une biographie de Newton et l'a appelé le dernier des sorciers.
And not the first scientist.
Et pas le premier des scientifiques.
So I guess maybe not, because this is the period that I see as, and I think a lot of people see as, when magical thinking and scientific thinking begin to come apart.
Ouais. Et non, en fait, je pense que ça n'aurait pas pu se passer dans un autre siècle, comme vous le demandiez, parce que cette période-là, c'est la période où la pensée magique et la pensée scientifique commençaient à se séparer vraiment.
And my question is, what if things had gone the other way?
Et ma question était, et si les pensées, si les croyances étaient parties dans l'autre sens, dans le sens de la magie plutôt.
Petite question à Christophe Lambert, et pourquoi ne pas écrire des romans historiques purement, et sans fantasy ou sans science-fiction ?
Ça m'arrive d'écrire des romans historiques. J'ai écrit un roman qui s'appelle L'or et la boue, qui se passe dans les tranchées à Verdun. J'ai écrit un roman qui s'appelle Les Aventuriers du Nil, où on assiste à la conquête de l'Égypte par Bonaparte en 1798. Donc je ne vais pas systématiquement du côté de la fantasy, mais voilà, comme je suis tombé dans le chaudron de l'imaginaire quand j'étais petit, c'est vrai que je m'autorise des escapades, mais le roman historique pur et dur me branche bien aussi.
Et comment tu fais le choix entre ce qui va devenir un roman historique et...
C'est vraiment l'idée de départ, hein, la situation. Pour Vegas Mytho, ça se résume en deux mots sur un carnet de notes qui était « Dieu mafieux ». Je voulais traiter le panthéon des dieux comme une véritable mafia. J'avais revu Le Parrain de Coppola peu de temps auparavant et je m'étais dit « Mais Don Corleone, c'est Zeus, c'est évident. James Caan, c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. » Et je me suis dit, mais pourquoi personne y a pensé? Donc je me suis lancé là-dedans. Entre-temps, il y a un tout petit livre qui est sorti qui s'appelle American Gods de Neil Gaiman, qui m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, coupé les pattes. Et bon, et puis j'ai du temps à passer et j'ai repris le bébé. Mais voilà, souvent, pour le Commando des Immortels, les deux... Alors souvent, ce sont des télescopages, en fait, hein, de choses très différentes. Donc Dieu et mafieux. Le Commando des Immortels, c'était Platoon elfique. J'imaginais des gens dans la guerre du Vietnam, des GIs, mais accompagnés d'elfes. Voilà, j'avais cette image-là, comme ça. Bon, après, il reste à bâtir l'histoire, mais en tout cas, l'image de départ est là. pour la brèche, j'imaginais une plage du débarquement, mais avec des exosquelettes dignes de Matrix, ce qui est finalement la couverture du roman que Manchu a formidablement illustré, quoi. Donc c'est un télescopage improbable, et après il s'agit de rendre crédible ce choc des époques ou des ambiances ou des genres. Mais à chaque fois, le tilt, le point de départ est différent, quoi.
Vous pourriez, Christina, mettre plus de fantaisie ou faire vraiment des choses complètement uchroniques ?
Je l'ai fait.
Ah, voilà, parfait.
J'ai fait un bouquin de fantaisie, oui. Mais c'est très très proche. D'ailleurs, si vous regardez, en général, tout ce qui est que ce soit de la SF ou de la fantaisie, on prend souvent une base historique qui a déjà existé. Et puis, on remplace les nazis par des elfes ou par des extraterrestres. Et il n'y a rien de mieux, parce que l'histoire, elle ne ment pas. Je veux dire, elle s'est produite. Il n'y a pas d'erreur de scénario. Enfin, pas toujours. Donc, en le reprenant, c'est quelque chose vraiment qui marche. Donc, c'est très, très proche. Il y a une série qui est passée, une série de SF à la télé, Babylone 5. Eh bien, au départ, le scénario de Babylone 5, c'était un scénar historique. C'était la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. On lui a dit, mais ça ne marchera pas. Tu ne vas pas nous mettre un peu plus... Et pouf, on l'a mis à la sauce extraterrestre, et voilà, et le scénar tient très bien la route, parce que c'est sur des bases historiques. Donc c'est très très proche. L'histoire et la fantasy, c'est vraiment frère et sœur, quoi.
Alors, il nous reste une poignée de minutes, parce qu'on m'a demandé de faire court. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos quatre intervenants ? Ou pas ? Une fois, deux fois, trois fois. Personne ? Bien, et bien parfait. À juger. Merci beaucoup à tous d'être venus, et merci aux intervenants.